إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous en sommes aujourd'hui au verset 228 de Sourate Al-Baqarah, et nous avons dit que tous les versets qui vont venir à partir de maintenant vont parler des différentes règles concernant le divorce et la séparation en islam. Allah tabaraka wa ta'ala dit: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
Dans le sens de sa parole, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: les femmes divorcées sont tenues d'observer un délai d'attente de 3 périodes menstruelles. Il leur est interdit de dissimuler les germes de maternité qu'Allah a pu déposer en leur sein, pour peu qu'elles croient en Allah et au jour dernier. Durant cette attente, les maris ont un droit prioritaire à reprendre leurs épouses s'ils désirent la réconciliation. Les épouses ont autant de droits que de devoirs qu'il faut respecter suivant le bon usage. Bien qu'une certaine préséance reste acquise aux hommes, Allah est puissant et sage. Ce verset parle des femmes qui viennent de se faire divorcer de par leur époux. À savoir que le divorce en islam peut se faire par le fait que l'homme prononce le mot divorce. S'il dit « tu es divorcé », « je t'ai divorcé », « je te divorce », alors on ne demande pas son intention. Qu'il ait l'intention ou non, cela compte comme un divorce. Qu'il rigole, qu'il soit sérieux, cela compte comme un divorce. Par contre, s'il dit une parole « retourne chez tes parents, je ne veux plus de toi, je veux qu'on se sépare », ceci est considéré comme des paroles qui ne sont pas claires dans le divorce. On demandera au mari: quelle était ton intention au moment où tu as prononcé cette parole? S'il dit: mon intention était le divorce, cela comptera comme un divorce. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le divorce est dans la main de l'homme. Une femme en islam, elle ne peut pas divorcer. L'homme, il divorce avec une simple parole.
une simple parole. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à cette parole. Par contre, la femme, si elle a des raisons valables, peut demander le divorce. C'est-à-dire, elle demande à son mari de la divorcer, comme lui peut accepter ou refuser. Ou lui proposer le khola, d'acheter sa liberté, c'est-à-dire de rendre sa dot ou une partie de sa dot ou autre, pour que le mari la divorce. De même, il est en droit de refuser ou d'accepter. Ou encore, s'il l'opprime, elle devra se tourner vers un juge musulman qui convoquera le mari et la femme et qui convoquera les témoins et la famille, qui écoutera obligatoirement les différentes parties. Puis s'il considère que la femme est en droit de demander le divorce, il pourra dans ce cas obliger l'homme à divorcer ou bien lui-même prononcer le divorce ou encore l'annulation du mariage. Donc, ça c'était une parenthèse qui résume les manières dont le divorce se passe en islam. Une femme, elle peut dire 1000 fois « je divorce », c'est comme si elle avait dit 1000 fois « je suis très heureuse ». Cela compte 0 dans un divorce. Par contre, l'homme, il dit 1 fois « je divorce », cela compte comme un divorce. Qu'il rigole ou qu'il ne rigole pas, qu'il soit sérieux ou non. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux gens qui croient qu'on peut dire « je divorce » pour faire peur ou « je divorce » pour régler des problèmes. Non, ça ne règle pas des problèmes. Le mot « je divorce », ça compte un divorce. Une deuxième fois, elle dit « je divorce », ça compte 2 divorces. Il le dit une troisième fois, elle lui est interdite. C'est fini. Tant qu'elle ne se remarie pas, qu'elle ne consomme pas le mariage et que son prochain mari ne la divorce pas, tout cela sans faire exprès, il ne pourra plus jamais se marier avec elle. C'est fini. Et ça, on va le voir dans les prochains versets, Inch'Allah. Mais c'était une parenthèse déjà nécessaire. Donc, les femmes qui viennent de se faire divorcer de par leur époux, elles sont tenues obligatoirement d'observer une période de viduité, un délai d'attente de 3 périodes de menstrues. Ceci est spécifique à la femme qui a ses menstrues. La femme enceinte, non. Son délai d'attente est jusqu'à l'accouchement. Si l'accouchement intervient une semaine après, ça y est. Si l'accouchement intervient 8 mois après, il lui faudra attendre 8 mois. Par contre, la femme qui n'est pas enceinte et qui a ses menstrues, son délai d'attente est de 3 périodes menstruelles. C'est-à-dire 3 périodes de menstrues ou de purification selon les différents avis des savants à ce sujet, bien que la première version, c'est-à-dire les périodes de menstrues, reste la plus juste. Cette période d'attente possède plusieurs sagesses et avantages. Il y a entre autres l'assurance que la matrice de la femme est vide de tout embryon une fois passées les 3 périodes d'attente. De ce fait, il n'y a aucun risque de mélange des filiations et de la parenté. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a ordonné de déclarer ce qu'Allah a pu déposer en leur matrice. Et il leur a interdit de dissimuler une éventuelle grossesse ou de dissimuler les menstrues. Car dissimuler une grossesse, cela donnerait lieu à de nombreuses nuisances. En effet, dissimuler une grossesse implique d'attribuer un enfant à autre que son père, par désir de se marier avec cet homme et de faire croire que l'enfant qui va naître est de ce deuxième mariage, et par empressement de mettre fin à la période d'attente. Or, si cette femme attribue le fruit de cette grossesse à autre qu'à son père, il y a dans cela une rupture des liens de parenté, un mensonge et une tromperie, une privation de l'héritage, une rupture des filiations. Des femmes qui lui sont interdites vont se voiler devant lui. Il risque même de se marier avec des femmes qui lui sont interdites en mariage, du fait qu'il ne connaît pas sa vraie filiation. En outre, l'éventuel enfant sera attribué à un autre père que le sien, avec les implications nuisibles et possibles sur le plan des héritages et les autres torts dont Allah seul connaît les conséquences désastreuses. Au demeurant, il suffit comme gravité et comme péché capital pour la femme qu'elle est dans la fornication et que cet homme avec qui elle croit qu'elle est mariée est dans la fornication. Car leur mariage est invalide du fait qu'ils se sont mariés pendant une période où elle était enceinte. Donc le seul fait de vouloir vivre avec ce nouvel homme qui n'est pas son nouveau mari en réalité, car leur mariage est invalide, cela montre la gravité de ce péché et cela montre la gravité de cacher une grossesse. Donc ce mariage était invalide tant qu'elle n'a pas accouché et que la filiation soit attribuée au vrai père. Quant au fait de dissimuler les menstrues, c'est le fait de s'empresser de les annoncer alors que ce n'est pas vrai. C'est aussi le fait de se couper de son époux et de s'offrir à un autre avec toutes les conséquences néfastes pouvant en résulter, comme nous l'avons dit auparavant. Donc si la femme dit « ça y est, j'ai eu mes trois menstrues » et elle se marie avec un autre alors que c'est faux. Son mariage est caduque. Elle est dans la fornication. Car elle s'est mariée dans une période où elle était encore sous l'autorité du premier mari. Car la période de viduité, tant qu'elle n'est pas passée, le mariage n'est pas complètement rompu. En outre, si elle ment et qu'elle dissimule l'apparition des menstrues pour prolonger la période d'attente, donc ça c'est la deuxième catégorie, celle qui ment en avançant la période de menstrues pour se libérer plus rapidement et partir avec quelqu'un d'autre dans le haram. Il y a le deuxième cas de figure, la personne qui dissimule ses menstrues pour allonger la période d'attente et pour prendre une pension à laquelle elle n'a pas le droit. Cette pension est considérée comme un vol. Elle mange le haram et elle est illicite pour deux raisons. D'une part, parce qu'elle n'y a plus le droit, puisque la période sera passée en réalité, et d'autre part, elle attribue cela à la religion d'Allah et aux règles religieuses, alors que ceci est faux. Bien plus, et bien plus dangereux que cela, il se peut que son époux revienne sur sa décision et veuille la reprendre avant la fin de la période d'attente, alors qu'en réalité, la période de viduité et d'attente est déjà passée. Ils seront donc à cause d'elle dans la fornication, car ils sont devenus étrangers l'un à l'autre. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, il leur est interdit de dissimuler les germes de maternité qu'Allah a pu déposer en leur sein pour peu qu'elles croient en Allah et au jour dernier. En effet, la dissimulation de leur part est un manque de foi en Allah et au jour dernier. Sinon, si elles avaient vraiment foi en Allah et au jour dernier, et si elles avaient la certitude qu'elles seraient jugées pour leurs actes, si elles craignaient leur Seigneur, alors elles ne feraient jamais cela. Il y a aussi en cela une preuve sur le fait que la femme, concernant ce qu'elle annonce, parmi les choses la concernant, les choses intimes, ces informations qu'elle rapporte sont acceptées. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, durant cette période d'attente, les maris ont un droit prioritaire à reprendre leurs épouses. Ceci concerne at-talaq ar-raj'i. Qu'est-ce que c'est at-talaq ar-raj'i? Le divorce dans lequel le mari a le droit de revenir sur sa décision. C'est-à-dire le premier ou le deuxième divorce pendant la période d'attente, de viduité. C'est-à-dire, une fois qu'il a divorcé la femme, elle doit attendre trois périodes de menstrues, rester chez lui. Il est obligé de dépenser pour elle, sauf qu'il ne l'approchera pas. Il n'aura pas de rapport avec elle, sauf s'il a l'intention de revenir sur sa décision. S'il a l'intention de revenir sur sa décision, là, il lui sera permis de s'approcher d'elle. Et pendant cette période, il lui est légiféré à elle aussi de s'embellir et autres pour que l'homme change d'avis, réfléchisse et se dise, en fin de compte, je veux divorcer pour des raisons futiles, il est meilleur pour moi de rester avec cette femme, ou etc. C'est une des sagesses aussi pour laquelle cette période d'attente a été légiférée. Donc, pendant cette période-là, l'homme a tous les droits et est prioritaire sur le fait de reprendre sa femme. Mais ceci est conditionné par une condition, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, In aradu islaha,
à condition qu'ils désirent la réconciliation, c'est-à-dire qu'ils veulent le bien, qu'ils veulent une vie commune dans l'entente et l'affection et l'entraide. Et le sens apparent du verset est qu'ils ne veulent, et que s'ils ne veulent pas se réconcilier, alors dans ce cas-là, ils n'ont pas le droit de revenir sur leur décision juste pour nuire à la femme ou pour lui allonger encore plus sa période d'attente et la garder comme une prisonnière. C'est là aussi donc un des avantages de cette période d'attente, à savoir qu'elle donne un moment de réflexion au mari qui regrette la séparation avec son épouse afin qu'il puisse reprendre la vie avec elle. Ceci prouve combien Allah tabaraka wa ta'ala aime la concorde et l'harmonie entre les deux époux. Et il aborde et il déteste la séparation sans raison religieuse valable. Ceci est spécifique bien sûr au divorce dans lequel l'homme a le choix de revenir sur sa décision. C'est-à-dire que c'est un premier ou un deuxième divorce. Et non pas un troisième. Parce que dans le troisième divorce, il n'a plus le choix de revenir sur sa décision. La femme attendra la période de viduité, mais cette période-là, ce sera une période juste pour finaliser le divorce. Il n'aura plus le droit ni de l'approcher, ni de rien, et il n'aura plus le droit de revenir sur sa décision. Ça, c'est un. Deuxièmement, tant que la période de viduité n'est pas passée. Par contre, si la période des trois monstrues sont passées, même si eux deux, ils veulent se remettre ensemble, ils n'ont pas le droit, sauf s'ils refont un nouveau mariage avec le tuteur, avec la dot, avec les témoins. Car après la période de trois menstrues passées, ils deviennent étrangers l'un à l'autre, comme avant le jour où ils se marient. Donc on a ici trois cas. Le mariage dans lequel l'homme a le droit de revenir sur sa décision pendant la période de viduité. Il lui suffit de revenir sur sa décision pour que le mariage continue. Et il lui sera compté contre lui un divorce. Il a déjà usé un divorce ou deux divorces, selon où il en est. Le deuxième cas, c'est qu'il a divorcé avec son épouse une fois ou la deuxième fois, puis la période de viduité est passée. Alors ils redeviennent étrangers l'un à l'autre. Par contre, ils ne sont pas interdits au mariage. Ils peuvent se remarier sans que cette femme ait besoin de se remarier avec un autre homme. Alors ils se remarieront avec une nouvelle dot, avec des témoins, avec un wali, comme il se marierait avec une femme étrangère, car elle est devenue étrangère pour lui. Et à partir de ce moment-là, il recommence la vie de couple à zéro. À zéro. À la différence que quand l'homme revient sur sa décision pendant la période de viduité, la femme ne peut pas refuser, car elle est encore son épouse, tant que la période n'est pas passée. Alors que après que la période de viduité soit passée, alors là, c'est son choix, c'est comme un mariage. Un nouveau mariage, elle a le choix de dire oui comme elle a le choix de dire non. Comme son tuteur, il a le choix de dire oui comme il a le choix de dire non. Contrairement à pendant la période de viduité où ni le tuteur ni qui que ce soit ne peut dire non, on veut plus que tu reprennes ma fille. Et il n'a plus à intervenir. De toute façon, son intervention n'a aucune incidence religieuse. Sauf si la femme demande un jugement du juge musulman qui considère... dans ce cas-là, qui prononcera l'annulation du mariage, ou bien qui obligera l'homme à divorcer du fait qu'il considère que ce mariage ne peut plus perdurer. Bien sûr, toujours en écoutant les différentes parties. Et le troisième cas de figure, c'est le divorce où il y a eu trois divorces prononcés par l'homme. Alors là, même s'ils veulent se remettre ensemble, ils ne peuvent pas. Même en se remariant, ils ne peuvent pas. Ils se remarient. Ce sera de la fornication. Tant qu'elle ne se remarie pas, mais pas dans l'intention de se marier et divorcer. Sinon, elle est maudite. Et la personne, l'homme qui fait ça, il est maudit. Tant qu'elle ne se remarie pas, et que cet homme, il consomme le mariage avec elle, et qu'ils n'ont pas pu vivre ensemble, ils ont divorcé sans préméditation. Après ce deuxième divorce de ce deuxième mari, s'ils veulent se remarier, ils pourront. Mais sans cela, ce n'est pas possible. Quand il s'agit d'un divorce qui est arrivé au troisième divorce. Donc là, j'ai parlé de tous les cas où c'est l'homme qui prononce le divorce, bien sûr. On n'a pas parlé des cas d'annulation de mariage par le juge, ni des cas de khul' où la femme veut acheter sa liberté. Ça, inshallah, on y viendra quand on arrivera au verset qui parle de ces sujets-là, inshallah. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, les épouses ont autant de droits que de devoirs qu'il faut respecter suivant le bon usage, bien qu'une certaine préséance reste acquise aux hommes. Ce verset veut dire que les épouses ont sur leurs époux comme droit et exigence ce qu'elles ont à leur égard comme obligation et devoir, sauf certaines règles spécifiques qui donnent certains droits et devoirs aux femmes et non aux hommes, et certains droits et devoirs aux hommes et non aux femmes. Sinon, en dehors des règles spécifiques, ils sont tenus, l'un comme l'autre, de droits et de devoirs conjugaux communs. Le principe de ces droits entre les époux revient aux bons usages. Donc il y a des droits qui sont bien sûr déterminés par la charia, par la loi religieuse. La majorité des droits, c'est selon la bonne coutume, le bon usage, les habitudes du pays où on vit. Et cette situation diffère en fonction des époques, des lieux, des circonstances, des personnes et des coutumes. Par exemple, une personne vivant dans le désert avec une femme qui est habituée à manger peu, son devoir dans les dépenses familiales n'est pas le même que la personne qui vit en ville avec un certain niveau de vie. Et la femme, elle est habituée à un certain niveau de vie. C'est clair que ce ne sont pas les mêmes devoirs et responsabilités. Ceci revient aux habitudes et à la bonne coutume, selon bien sûr les capacités, sans dépasser les limites. Donc, il y a une preuve dans ce verset que les dépenses, l'habillement, l'intimité, le foyer, les relations même intimes, tout ceci revient aux bons usages et aux habitudes. Donc les habitudes et les coutumes, elles ne sont pas toutes rejetées en islam. Les coutumes et les habitudes bonnes, on les prend en compte concernant certains points de la religion, certains points liés aux relations sociales, tant qu'elles ne sont pas contradictoires aux règles de l'islam. Tout ceci, bien sûr, quand il y a un contrat qui est fait de manière absolue, non conditionnée. Par contre, s'il y a un contrat de mariage avec des conditions, toutes ces conditions peuvent être acceptables, si les différentes parties sont d'accord, bien sûr, sauf une condition qui rend licite ce qu'Allah a rendu illicite, ou qui rend illicite ce qu'Allah a rendu licite. Puis dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, bien qu'une certaine préséance reste acquise aux hommes, c'est-à-dire un degré dans la responsabilité. Comme Allah Ta'ala a dit dans le sens, dans un autre verset, les hommes ont la charge et la direction sur les femmes, en raison des avantages qu'Allah leur a accordés sur elles, et en raison aussi des dépenses qu'ils effectuent pour assumer leur entretien. Ainsi, Allah Ta'ala a choisi que les prophètes ne soient que des hommes. Il n'y a pas de femmes parmi les prophètes. De même, en islam, un juge, un imam de prière, un dirigeant de la communauté ne peut être qu'un homme. En outre, Allah tabaraka wa ta'ala a déterminé le double de la part des femmes dans l'héritage entre les enfants et dans la plupart des cas, sauf dans quelques cas précis dans l'héritage. Il y a lieu de préciser que le sens global de ce verset ne concerne pas les femmes enceintes, comme on l'a dit précédemment, car leur période d'attente reste liée à leur accouchement. En outre, les femmes qui n'ont pas consommé leur mariage n'ont pas de période d'attente. On pourrait en dire encore beaucoup plus sur les règles tirées de ce verset, mais inshallah, dans les prochains versets, il y aura encore d'autres règles qui seront citées, et on essaiera d'y donner des annotations et des règles et d'expliquer certaines règles religieuses liées à ces versets. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.